France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous passons la semaine en Anjou, département du Maine-et-Loire. La Loire, dont nous parlions hier avec une biologiste, est en crue ces jours-ci. Alors évitons de naviguer. Je vous propose aujourd'hui des barques qui ne sont pas sur l'eau et qui font un bien fou, surtout au territoire sur lequel elles sont implantées. Les barques, c'est un bistrot, une épicerie et un lieu de vie culturel. Installé depuis peu au Puy Notre-Dame, petite commune de 1000 habitants, pas très loin de Saumur, dont les habitants s'appellent les Ponots et les Ponotes. Je trouve ça très joli. Je passe un coup de fil à la Ponote, patronne des barques, dans un instant. Mais d'abord, nous parlons de la deuxième vie du matériel médical. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Ne pas jeter ce qui pourrait être utilisé par quelqu'un d'autre, ce principe de bon sens est encore plus valable quand on parle de matériel médical. Fauteuil roulant, déambulateur, canne, béquille ou autre. Voici une initiative qui est née à Angers et qui existe aujourd'hui dans 18 villes de France. Envie Autonomie. Bonjour Philippe Robin.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes le fondateur de cette société coopérative qui est une déclinaison du réseau Envie. Alors je rappelle que Envie, c'est un réseau d'économie circulaire qui récupère notamment de l'électroménager et qui le remet en état pour ensuite le vendre à bas prix. Le constat de départ, c'est que certaines personnes ne peuvent pas se payer le matériel médical dont elles ont besoin. Est-ce parce que certaines situations ne sont pas suffisamment prises en compte par la sécurité sociale ?
Écoutez, il y a plusieurs situations. Il peut y avoir un matériel pour lequel il y a un reste à charge qui est important. Oui, un fauteuil manuel, par exemple, une prise en charge aujourd'hui de 580 €, mais il peut coûter 2, 3 ou 4 000 euros, juste pour donner un exemple. Ou du matériel qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. L'assurance maladie ne prend pas tout le matériel nécessaire à la compensation de la perte d'autonomie ou de la situation de handicap. Mais c'est aussi pour un second matériel, par exemple. Une personne qui veut un fauteuil pour le travail, si elle en a un chez elle, elle ne bénéficiera pas de prise en charge dans ce cadre-là. Ou une famille pour un enfant à la crèche, ou une famille pour une personne âgée chez soi qui est déjà équipée à son domicile. Et peut-être une dernière catégorie qui est importante, qui est les personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui aux soins, à la santé, mais à la CMU, CMUC, enfin ce qu'on appelle maintenant PUMA. L'INSEE parle de 4 millions, 5 millions de personnes qui n'ont pas accès aux soins en France, donc qui se retrouvent dans des situations de difficulté de financer le matériel quand c'est nécessaire.
Alors, pour proposer du matériel médical à moindre coût, vous organisez avec Envie Autonomie l'économie circulaire de ce matériel. Où et comment récupérez-vous les fauteuils roulants ? Il n'y a pas seulement, d'ailleurs, j'imagine, des fauteuils roulants.
Tout à fait. Il y a une grosse partie, c'est vrai, c'est fauteuils roulants manuels, électriques ou releveurs, confort, enfin tout type de fauteuil. Mais il y a aussi tout le matériel qu'on appelle le matériel pour le maintien à domicile, ce qui est l'aide aux soins à la toilette, le matériel aussi de transfert ou un lit médicalisé ou un verticalisateur. Alors ce matériel, on récupère soit chez les particuliers pour 20% ou dans des établissements. Type EHPAD, mais aussi ça peut être tout type d'établissements médico-sociaux pour 80%.
D'accord. Et ensuite, tout cela est remis en état par des personnes qui sont en insertion professionnelle.
Exactement. Le réseau Envie Autonomie est un réseau d'entreprises d'insertion, donc avec une mission sociale qui est conventionnée par l'État pour recruter des personnes qui sont en rupture avec le marché du travail et les accompagner vers l'emploi durable sur un parcours de 2 années. Donc on va récupérer ce matériel, le trier pour jeter tout ce qui est obsolète ou qui n'est plus conforme, qui répond plus aux performances attendues. On va après en garder une partie pour des pièces détachées et puis on va en reconditionner à peu près 30% grâce à un process et pour pouvoir donc le distribuer à des prix solidaires avec une garantie de 2 ans.
Voilà, avec toutes les conditions, bien sûr, de sécurité et d'hygiène qu'impose ce type de matériel. En 2023, vous avez collecté 35 000 fauteuils roulants au total dans vos 19 antennes partout en France. Est-ce que vous diriez que le réflexe de donner un fauteuil plutôt que de le jeter a encore du mal à s'installer aujourd'hui ?
Alors, on jette en France des centaines de milliers, j'ai pas le chiffre, c'est difficile de le compter, d'aides techniques tous les ans, donc c'est énorme. 35 000, c'est beaucoup, mais c'est très peu, on peut faire beaucoup plus. Donc il est important de communiquer, je vous remercie beaucoup d'ailleurs de mettre en lumière cet aspect-là, qui est très important, parce qu'il faut arrêter de jeter, il faut donner, il faut savoir que ça peut avoir une seconde vie, ça peut permettre à quelqu'un de s'équiper, ou à un établissement, parce qu'on distribue beaucoup aussi aux établissements qui ont des difficultés de budget aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu, évidemment, d'arrêter de mettre dans une déchetterie et de jeter, donc on essaye sur les territoires d'avoir des points d'apport volontaires pour permettre à chaque citoyen de pouvoir donner le matériel plutôt que de le jeter ou de le laisser s'abîmer dans un sous-sol, dans un garage. Donc c'est très très important.
La comparaison à ce titre avec le système allemand est intéressante, hein.
Alors en Allemagne, c'est un modèle un petit peu différent, mais vous avez raison, 40% du matériel qui est distribué en Allemagne est issu de la seconde main. Donc en France, on n'est pas encore du tout dans cette dynamique-là. Mais vous savez, peut-être la Sécurité sociale a prévu dans sa loi de finances 2020 la prise en charge du matériel, elle dit remise en bon état d'usage. Ça date de 2020. On attend les décrets. C'est un enjeu qui est très important. Et on espère pour cette année. Donc la Sécurité sociale va prendre en charge en premier les fauteuils qui sont de seconde main. Ça permettra de baisser les coûts, de faire des économies au système de santé. Et puis on espère avec les économies pouvoir faire mieux. On sait qu'il y a beaucoup de besoins et qu'il y a beaucoup de développer le reconditionnement du matériel.
Voilà. On trouvera bien sûr sur notre site un lien avec toutes les infos pratiques pour ceux et celles qui veulent donner du matériel médical et pour ceux et celles qui en cherchent à moindre coût. Tous les points de collecte sont répertoriés sur votre site. Envie, autonomie. Merci beaucoup Philippe Robin.
Merci beaucoup Dorothée.
Et bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Un coup d'œil à la boîte mail des carnets. Allez, voici le message de Bernadette. Bonjour Dorothée, nous adorons France Inter de midi et demi à 13h. Dans notre département, le Maine-et-Loire, je souhaite vous parler de deux choses, écrit-elle. La boutique associative, oui, la est en majuscule, épicerie implantée à Chalin-la-Poterie, ouverte 365 jours par an, sauf cette année, 366 jours. On y trouve tout ce dont on a besoin, produits locaux, produits bio et en vrac, et tout le minimum vital. Deuxième chose, la Topette, journal local, populaire et indiscipliné, des infos du 49, un trimestriel sans aucune publicité. Nous ne sommes pas abonnés, précise cette auditrice, car nous souhaitons l'acheter à chaque saison à la boutique. Et puis voici le courriel de Marine qui signale la démarche originale d'un boulanger qui est basé à Latessoile, pas très loin de Cholet, toujours dans le Maine-et-Loire. Benoît Herbretto, installé en milieu rural, a décidé de produire son propre pain avec des produits locaux et bio uniquement. Il livre ensuite le pain dans les boîtes aux lettres. Ça permet aux gens éloignés des bourgs et des boulangeries de recevoir le pain frais directement, précise Marine. Et sa petite entreprise s'appelle le pain aux lettres. Voilà, vous retrouvez toutes les références des initiatives ici citées sur notre site internet. La boutique de Chalin-la-Poterie, le journal local La Topette et le pain aux lettres à La Tessoile.
France Inter. Carnet de campagne.
Les barques ne prennent pas l'eau. Oh que non, les barques sont plutôt un succès fou. C'est le nom d'un lieu hybride, les barques. Un bar à vin, épicerie, lieu de vie culturel. Nous sommes au Puy Notre-Dame, pas très loin de Saumur. Bonjour Sarah Goldberg.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes la fondatrice de ce lieu, installé dans un ancien manoir de chanoines au Puy Notre-Dame. Vous avez ouvert il y a bientôt 2 ans. Et si je dis que c'est un succès fou, c'est que les gens du coin se sont appropriés les barques. Quel retour avez-vous des habitants et habitantes ?
En fait, on a ouvert il y a 1 an et demi. On va fêter nos 2 ans au mois de juin. Et c'est vrai que on est animé et habité ici par les gens du Puy Notre-Dame et des villages environnants qui, je pense, qui ont élu domicile chez nous comme le lieu, leur petit lieu convivial de rencontre et de rendez-vous tout au long de l'année, puisqu'on a fait le choix de rester ouvert en basse saison, ce qui est très très rare dans le coin. Et voilà, et c'est vrai qu'on a constamment des retours humains de gens qui nous portent ici aux barques en nous disant que voilà, quand on n'est pas là, les rares fois on a pris 1 ou 2 jours de congé, on leur manque, que c'est le lieu qui a un peu changé leur vie. Et ça fait vraiment chaud au cœur, on va dire, alors qu'on est tout récent et tout jeune. Et ça donne largement envie de continuer.
Vous avez changé leur vie, ni plus ni moins. Il y avait un besoin, donc c'est peu de le dire.
Je suis toujours étonnée quand j'entends ce genre de choses, parce que je pense qu'effectivement il y avait un besoin. On est dans un petit village. Alors pourtant on est dans un petit village qui bouge beaucoup, avec une mère qui a un énorme dynamisme et qui fait énormément de choses pour le village. D'ailleurs, c'est ce qui nous plaît ici et on a un total soutien de la commune ici. Mais voilà, je pense qu'il est important dans ce genre de petit village d'avoir des lieux de rendez-vous qui soient simples, où tout le monde, on nous dit ici que tout le monde se sent comme à la maison. Donc pour moi, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire, je crois, en ayant ouvert ce lieu-là.
Vous nous décrivez les lieux, s'il vous plaît? Vous êtes sur place en ce moment?
Alors moi je suis sur place, je suis assise dans la cour, donc en fait on est effectivement dans un ancien manoir de chanoine qu'on peut reconnaître grâce à une tour qui fait l'angle de bâtiment. Et donc c'est un ensemble de bâtiments qui encerclent une cour centrale. Et moi aujourd'hui je suis en plein milieu de cette cour, et c'est vrai que c'est un projet, plus qu'un projet de vie, puisque c'est en même temps mon lieu de travail, on va dire d'un côté de la cour, et de l'autre côté de la cour c'est là où j'habite. Donc j'y passe vraiment la plupart de mon temps.
Comment un endroit comme le vôtre, qui est à la fois donc une épicerie, un bistrot, une salle de concert, une cave à vin, parvient à s'implanter dans le territoire? Vous vous êtes posé la question beaucoup avant de vous lancer, j'imagine?
Alors oui, d'autant plus que je suis pas du tout du coin. Maintenant dans mes anciens boulots, je me suis toujours posé. Moi, je travaillais avant dans l'univers des tiers-lieux, et la notion de territoire, donc qui était plus attribuée à des quartiers, puisque c'était à Paris, région parisienne, était très importante pour nous. Et c'est vrai que moi, c'est une grosse question que je me suis posée en arrivant ici. Moi, j'avais très envie que ce lieu soit et devienne de plus en plus ancré sur le territoire. Donc c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées, et je pense qu'on essaye en tout cas de faire en sorte que ce lieu vive pour les habitants du Puy, mais aussi avec les habitants du Puy et des environs. On est très à l'écoute de leurs demandes, de leurs envies, de leurs conseils. Ils sont très aidants. On les fait participer ici à beaucoup de choses, et je pense que ça contribue à ce que chacun puisse un peu s'approprier les lieux.
Et puis il y a aussi sans doute l'importance d'organiser des événements. Vous proposez par exemple un salon du vin le 25 mai.
Exactement. Évidemment, on est entouré de vignerons ici. Une de mes casquettes, c'est celle d'être caviste. Et en gros, on a un salon qui s'appelle Saumur Sobio, qui a lieu une fois par an dans le Dôme, donc le théâtre de Saumur. Et puis une fois, à un autre moment dans l'année, ils font ce qu'ils appellent un hors les murs. Donc il se déplace un peu à droite, à gauche, et cette année, on a vraiment la grande chance de l'accueillir. Il y a au moins un événement par semaine, que ce soit un concert, un petit spectacle, mais ça peut être aussi une animation, donc un salon. On a monté plus en été, on fait des petites brocantes. Là, dans 10 jours, on a un atelier d'écriture, donc quelqu'un du coin qui vient animer cet atelier. La semaine dernière, on avait une soirée lecture avec une rencontre d'une vigneronne du Puy Notre-Dame. Donc on essaye vraiment qu'il y ait qu'il se passe des choses régulièrement.
Et la suite des barques, ça donne quoi, Sarah? Une salle de spectacle est prévue, je crois.
Ouais, alors ça, c'est le gros projet. Enfin, c'est le projet que j'ai depuis le tout début, depuis que je suis installée ici. Aujourd'hui, il y a un bâtiment qui accueille donc cette fameuse cave à vin, cave à manger, avec les extérieurs là qui commencent à reprendre vie avec le beau temps. Et puis, on a deux chais. Donc, il faut savoir que pendant 25 ans, cette maison de chanoine était la maison d'un vigneron. Et donc, il y avait ces chais où ils vinifiaient le vin. Et le gros projet que j'ai depuis le début, c'est de transformer un des chais en petite salle de spectacle. Et c'est l'année où je me lance. Alors, il y a un peu de boulot. Il y a déjà pas mal de recherches de subventions pour nous aider à faire les travaux pour la mise aux normes et puis l'aménagement de la salle. Mais voilà, moi, je viens du milieu de l'événementiel, et c'est vrai que mélanger la culture, le vin, les bons produits locaux, c'est un peu ce qui m'anime ici. Mmh. Donc, c'est le gros projet de cette année, si on arrive à lever les fonds nécessaires. Ouais.
Même pas peur?
Non, parce que sinon on n'avance pas. On verra bien, ça marche ou ça marche pas.
Vous le disiez, vous étiez parisienne avant, Sarah. Je crois pouvoir dire que vous n'avez aucun regret quant à ce changement de vie.
Alors, comment vous dire que je pense que je suis en train de vivre ma meilleure vie?
Ah ouais, voilà ce qu'on veut entendre.
Non, vraiment. Alors, j'ai énormément d'attaches à Paris, et c'est une ville qui restera. C'est ma ville de naissance, donc une ville qui restera dans mon cœur tout le temps. Et puis j'ai toute ma famille, mes attaches là-bas. Mais mon quotidien aujourd'hui, il est ici, quoi.
Au fait, pourquoi ce nom, les barques?
Pour vous donner un peu plus encore d'éléments sur le lieu, en fait, quand je suis arrivée, toutes les huisseries qui sont côté cour sont dans un espèce de bleu pâle. Et j'adore ce bleu, donc on les a repeints, on a gardé la même couleur. Et en fait, je cherchais un nom, je voulais pas quelque chose qui soit de consonance, le vin, le pain, la musique, donc je voulais quelque chose de beaucoup plus poétique. Donc voilà, j'ai brainstormé avec moi-même, avec des gens autour. On n'est pas loin de la Loire, de l'eau. Moi, j'aime bien être sur une barque. Je trouve que c'est un moyen de locomotion très lent, très doux. C'est ce qu'on a envie ici, prendre un peu son temps et que ce soit très doux. Donc voilà, donc à un moment donné, je listais un tas de noms et c'est arrivé. Et puis, il a été mis au pluriel parce que les barques, on embarque ici pour plusieurs petites aventures. Donc, on a décidé de le mettre au pluriel. Donc, c'est parfait.
C'est parfait, en effet. Les barques, bar à vin, épicerie, lieu de fête, c'est donc au Puy Notre-Dame dans le Maine-et-Loire. Merci beaucoup Sarah Goldberg.
Merci à vous.
Et bonne journée, au revoir.
À vous aussi, au revoir.